Pourquoi faut-il impérativement venir à Rouen? La fameuse ville au sans clocher est la capitale de région la plus proche de Paris, située à 1h25 de notre capitale nationale par le train. Quelle est son identité? Quels sont ses atouts? J'ai rencontré Delphine Croc, directrice générale de Rouen Tourisme, qui va nous répondre. Bonne écoute! Donc bonjour, bienvenue dans Where is Brian. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Delphine Croc. Bonjour.
Bonjour.
Qui est la directrice générale de Rouen Tourisme depuis 2019. Alors, la première question que je pose à tous mes invités, vous savez, c'est Where is Brian?
Brian est au Musée des Beaux-Arts de Rouen.
Quelle est un peu l'histoire de ce bâtiment? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est central, hein, c'est à côté de la gare.
Alors ici, au Musée des Beaux-Arts, on est en plein cœur du centre historique. Hein, et c'est un musée qui abrite la seconde collection impressionniste de France. Donc c'est déjà absolument exceptionnel, mais pas que, dans la mesure où vous avez quasiment toute l'histoire de l'art qui est représentée ici, avec des peintres extrêmement célèbres, que ce soit le Caravage, Monet, Manet, Sisley, Duchamp, et j'en passe. Enfin, c'est vraiment une collection absolument fabuleuse, des Poussins, Hubert Robert. Enfin, quand on aime l'histoire de l'art, vraiment, on en a plein les yeux.
C'est une des raisons incontournables pour laquelle il faut, on l'aura dit dans pas mal d'épisodes désormais, venir à Rouen, terre aussi d'impressionnisme, et venir plus globalement même en Normandie, de toute façon. C'est un peu le message. D'ailleurs, la question qu'aussi je voulais vous poser, parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on m'a déjà posées sur les offices de tourisme. En fait, vous êtes l'office de tourisme de Rouen, Rouen Tourisme, mais est-ce que vous êtes habilité à donner de la documentation sur toute la Normandie, c'est-à-dire de l'axe de Giverny à grosso modo de Mont-Saint-Michel?
Ah, évidemment. Alors, on s'appelle Rouen Tourisme, mais notre territoire de rayonnement est la métropole Rouen-Normandie.
Oui.
Donc 71 communes, dont Rouen évidemment, hein, la ville-centre, avec des communes qui sont très touristiques, je pense à Jumièges, La Bouille, Duclair, Elbeuf, entre autres. Et effectivement, en office de tourisme, mes collaborateurs ont coutume de dire que nous sommes l'office de tout, c'est-à-dire que les visiteurs nous posent des questions sur l'ensemble du territoire national. On a même des questions sur les lignes de métro parisiennes, par exemple. Donc évidemment, sur la Normandie, nous délivrons des informations.
Oui. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le souvenir, parce que je ne vais pas le cacher, hein, c'est spontané. J'ai effectué le premier stage de ma vie professionnelle. Je devais avoir 22 ans à Rouen Tourisme. Qui s'appelait d'ailleurs, je crois, l'Office de Tourisme de Rouen et des Congrès. À cette époque-là, c'était, on y reviendra d'ailleurs, c'était dans l'Hôtel des Finances, qui est en travaux, vous me le confirmez, je crois, pour 3 ans.
C'est ça.
Et donc, en fait, là, on n'y est pas actuellement, mais l'accueil touristique de Rouen Tourisme est situé juste en face de là où nous sommes.
Au Musée des Beaux-Arts, effectivement, nous avons pris nos quartiers ici, dans ce bâtiment. Donc qui est face au Square Verdrel, où nous accueillons désormais les touristes pendant les travaux place de la cathédrale.
D'accord. Et c'est des travaux qui vont durer 3 ans?
Alors, ce sont des travaux qui vont être faits en 2 phases. Une première phase avec une réouverture, on l'espère, pour l'Armada.
D'accord.
Avec comme objectif la mise en accessibilité de l'atelier Claude Monet.
D'accord.
Et du bâtiment, avec la création d'un ascenseur, entre autres, et aussi le fait d'ajouter des services aux visiteurs, et notamment des toilettes publiques.
D'accord.
Ça, oui, c'est pour la première phase.
Oui. Et la deuxième?
Et la deuxième, donc, on réouvre pour l'Armada, pour une période, on pense, d'une année environ, hein, le temps de pouvoir faire tous les diagnostics, de consulter la direction régionale des affaires culturelles, l'architecte des bâtiments de France, évidemment, parce qu'il y a des choix très structurants à opérer, notamment sur la restauration de la façade. Et donc, deuxième phase de travaux dans à peu près 1 an et demi, 2 ans, avec la restauration de la façade qui retrouvera sa superbe. Il faut se dire que le bâtiment a été construit à peu près à la même époque que l'hôtel de Bourterroude. Donc quand on voit le résultat de la restauration de l'hôtel de Bourterroude, c'est un petit peu ce que l'on aura avec l'hôtel des Finances. Et par ailleurs, on va créer une expérience Monet dans l'atelier Claude Monet actuel, qui est fermé au public, et donc que l'on va rendre accessible au plus grand nombre. Et aussi, on aimerait apposer une verrière à l'endroit de la cour pour agrandir les surfaces d'accueil, et restaurer aussi, rénover le dernier étage qui est aujourd'hui inexploitable, avec le réaménagement des combles et l'installation de nouveaux bureaux pour les salariés.
Donc ça sera pour l'installation exactement de nouveaux bureaux pour les salariés, c'est elle où il est destiné peut-être à autre chose éventuellement ou...
Alors pour les combles, on est sur l'installation des salariés. D'accord. En revanche, toute la partie de l'étage de l'atelier Claude Monet qui précédemment était dévolue aux salariés, ouais, elle sera accessible au public avec la création, on le souhaite, d'une expérience Monet et d'un centre d'introduction à la visite de la ville. Enfin, de pouvoir avoir des dispositifs de médiation, les présenter, pour comprendre ce qu'est cette ville, cette métropole, en quelques notions. Hein, l'idée est de donner envie aux visiteurs d'aller sur les différents sites et de découvrir les expériences proposées.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Vous me parlez déjà du futur, de ce qui va advenir, et c'est très bien. Mais déjà, on va dire que 2022 et 2023, c'est une période très charnière. Hein. Ça a commencé déjà dès septembre 2022, avec déjà le déménagement de vos locaux ici au Musée des Beaux-Arts, le nouveau logo que je vais mettre,
nouvelle identité.
Nouvelle identité pour attirer toujours plus de nouvelles personnes. Mais justement, en fait, ce logo, comment il a été créé, pensé, imaginé ?
Alors, par rapport à ce logo, il illustre le nouveau positionnement pour Rouen Tourisme. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, précédemment, Rouen Tourisme s'appelait Rouen Normandie Tourisme et Congrès.
Oui.
Un nom un petit peu long et barbare.
Oui.
Je sais que quand je me présentais, je commentais en plus en disant que c'était l'office du tourisme de Rouen et de sa métropole, donc oui, ça devenait très très long. Donc on a cherché à simplifier les choses, donc travail sur le positionnement de la destination avec un partenariat de recherche Action pendant 2 ans avec le centre d'industrie créative de Cage Business School et une chercheure qui nous a accompagnés sur le sujet. Donc entretien, interview, observation terrain pour identifier les forces, les faiblesses de la destination et surtout décrire ce qu'est être en capacité d'identifier ce qu'est notre ADN, la façon dont nous sommes perçus par les visiteurs et la façon dont nous souhaitons être perçus à l'avenir. Donc tout ça a donné lieu à beaucoup de travail.
Oui.
Et un nouveau positionnement qui repose sur un tourisme patrimonial innovant. Et donc ce positionnement se traduit à la fois dans nos offres, sur lesquelles nous sommes en train de travailler, mais également en signes, en identité, avec la refonte de notre identité et un double enjeu qui était le suivant: donner à voir et à comprendre nos patrimoines majeurs que l'on retrouve au sein de la métropole.
Oui.
Donc patrimoine historique, patrimoine artistique, patrimoine naturel, patrimoine industriel et patrimoine gastronomique. Je pourrais y revenir
oui,
après.
Tout
en y apportant un regard contemporain. Donc donner à voir et à comprendre en apportant un regard contemporain. Et donc nous avons fait appel à un grand designer français qui s'appelle Philippe Apelois, qui est connu dans le monde entier, qui a exposé au Musée des Arts Décoratifs, au Japon, qui a fait des logos d'institutions culturelles qu'on a tous en mémoire, auxquels on a été exposés, que l'on a retenu et qu'il a créé. Et donc il nous a fait l'honneur de travailler pour nous, sachant qu'il a une petite histoire avec le territoire, dans la mesure où c'est lui qui avait créé l'identité du festival d'été en Seine-Maritime, donc à la fin des années 70, début des années 80, puis l'identité du festival Octobre en Normandie. Donc une appétence pour notre territoire, et donc on l'a convié, plongé au sein de la destination, et il nous a fait une dizaine de propositions, et c'est celle que nous avons retenue avec ce haut qui en quelque
sorte...
C'est
la question que j'allais vous poser. Ouais.
...représente la roue, l'hypercentre, le gros horloge, les roses que l'on trouve dans nos édifices, la cathédrale, Saint-Ouen, le rond aussi qui fait penser à la ferronnerie. Donc le centre, hein, la ville hypercentre, et puis... les lettres autour qui pourraient représenter les communes de la métropole, ce R qui rentre dans le haut, qui fait aussi penser aux méandres de la Seine.
Ouais.
Voilà, on est vraiment dans le temps qui passe.
Ouais, Oui, donc en fait, ce que j'étais en train de vous dire, vous me parliez de ce logo et des liens qu'il crée entre les lettres avec le O au centre. Moi, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ça me rappelait, en fait, ayant reçu Rebecca Armstrong, la déléguée générale de la candidature de Rouen 2028, que, bien sûr, ici, nous soutenons tous ardemment. En fait, ça m'a rappelé ce qu'elle me disait sur la scène comme lien, c'est-à-dire, en fait, que tout s'imbrique autour de la scène. Alors, je ne sais pas si vous êtes consulté avec Rouen 2028, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça me rappelle, en tout cas. Cette histoire de fleuve qui doit faire le lien, en fait, entre les gens et le territoire, un peu comme c'était à une grande époque, on a l'impression que ça s'est un peu distendu avec le temps pendant une certaine période, et puis c'est en train de revenir. C'est un peu ça ce que ça m'évoque.
Alors, évidemment, le fleuve est central hein, dans notre sur notre territoire, et tout ce que nous entreprenons au sein de Rouen Tourisme est complètement en phase avec les axes de la candidature de Rouen Capitale Européenne de la Culture pour 2028. C'est-à-dire avec ce fleuve au centre, la Seine, hein, qui est la candidate, oui. Comme l'a expliqué Rebecca.
C'est ça.
Aujourd'hui, dans les 5 patrimoines que l'on retrouve, 5 patrimoines majeurs que l'on trouve en grande quantité et qualité au sein de la métropole, on a le patrimoine historique, 3000 ans d'histoire, qui est peut-être le plus connu aujourd'hui, le patrimoine artistique, avec cette terre d'inspiration, que ce soit pour les impressionnistes, mais également pour les écrivains, avec la littérature, hein, Corneille, Flaubert, Hector Malot, Maurice Leblanc, Bussy, Annie Ernaux, enfin vraiment très 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 riche, et pas que hein, d'un point de vue artistique. On a aussi l'artisanat, très inspirant. On n'est pas loin ici du musée du Sec des Tournelles. Il y a la céramique, enfin voilà. L'industrie, souvent cette industrie, on la voit, elle est considérée par son côté obscur. Hein. Ouais. Les usines, la fumée, le côté sombre. Mais cette industrie, elle a été construite en bord de fleuve, qui est centrale évidemment. Et puis, ça a été une industrie d'excellence, de pointe au moment de la révolution industrielle.
Absolument.
Avec une richesse de la ville, Elbeuf, première cité drapière, Rouen, la laine, le coton, enfin vraiment, et puis le port, hein, qui nous relie au monde. Donc, cette industrie, qu'est-ce qu'on en fait? Ce fleuve aussi qui est central, avec le fleuve, les forêts d'exception qui ponctuent notre territoire, les falaises. Et aujourd'hui, on a aussi le patrimoine gastronomique hein, qui vient d'être couronné par l'UNESCO avec ce label ville créative en matière de gastronomie. Oui. Mais pour l'industrie et la nature, aujourd'hui, ce sont précisément les patrimoines pour lesquels on a le plus de... peut-être de difficultés à faire comprendre le caractère exceptionnel. Enfin, pas pour la nature, mais pour l'industrie.
Pour l'industrie.
Et pour la nature, on a encore du mal à s'en imprégner. C'est-à-dire que quand on veut aller sur la Seine, alors aujourd'hui, c'est formidable parce qu'on a la Seine à vélo, cet itinéraire qui relie Paris à la mer, le Havre où on fleure, et avec sur la métropole en Normandie, le tronçon le plus propre de tout l'itinéraire. Donc c'est un avantage majeur pour la métropole. Mais au-delà de ça, quand on souhaite aller sur la Seine, c'est pas toujours évident. Alors on a nos bacs qui la traversent et qui sont une attraction pour les enfants, pour les familles.
Effectivement.
On a la navette fluviale maintenant au centre de la ville de Rouen, mais on reste un petit peu sur notre faim quant à l'appréhension du fleuve.
Ouais, c'était évidemment déjà le cas quand j'y étais, puisqu'on me posait régulièrement des questions, que faire et surtout quoi faire et comment y aller, en fait, quand on est visiteur et que on n'a pas forcément de moyens et qu'on ne se dit pas tout de suite je dois louer un véhicule pour effectuer un parcours le long des boucles de la Seine, c'est un peu en fait la remarque qui peut revenir souvent. Moi justement, vous me parliez et ça m'intéresse beaucoup de patrimoine industriel et vous me disiez que c'est difficile à mettre en valeur. Alors j'ai peut-être une question qui va peut-être vous y aider. Depuis Lubrizol notamment, des catastrophes comme Lubrizol, on a vu qu'il y a eu encore dernièrement d'ailleurs un incendie chez Bolloré Logistique à Grand-Couronne. Comment on fait en fait justement concrètement pour arriver à mettre ça en valeur, parce que je vais vous raconter une histoire, enfin, je vais essayer de la faire très bref parce que c'est pas moi qui parle le plus, mais c'est arrivé plusieurs fois que en fait, je fasse une introduction à Rouen à des étudiants. Et vous savez, quand on arrive sur la Sud 3, on a donc une odeur, on a la vue sur les usines et on se dit, et je me rappelle très bien de l'étudiante qui venait pour s'installer à Rouen pour faire ses études à Neoma et qui me disait, ah, c'est peut-être pas ce que j'imaginais. Comment on arrive en fait à transformer en fait cette idée reçue, enfin cette vision qu'on a en arrivant à quelque chose de positif.
Alors déconstruire ces représentations, effectivement, quand on arrive en voiture, ça peut être la première impression. Ce que l'on défend au sein de Rouen Tourisme, c'est vraiment une approche du slow tourisme, c'est-à-dire comment faire en sorte de proposer aux visiteurs une expérience qui soit la plus douce possible et pour laquelle le bilan carbone soit le moins élevé possible. Donc déjà, nous préconisons d'arriver à Rouen en train.
Oui.
Et vous allez voir, l'expérience est tout à fait différente.
Ouais.
On arrive par la gare, cette sublime gare, hein, art déco sublime. On descend ou par la rue Jeanne d'Arc, ouais, ou en passant devant le donjon avec ses hôtels particuliers absolument sublimes. Puis arriver sur le musée des Beaux-Arts, le square Verdrel, hein, mini poumon dans la ville. On tourne la tête, on a l'hôtel de ville au loin, et puis on rentre dans le centre-ville avec le palais de justice. Et là, le gothique démarre, l'expérience du gothique démarre. Enfin bon, ouais, je vais pas vous faire tout l'itinéraire, mais oui, donc c'est très très différent. Et quand on accueille des journalistes, généralement ils prennent le train, c'est plus, oui, commode, c'est plus rapide, il n'y a pas besoin de se garer, ils sont pris en charge dès leur arrivée par nos soins, hein, à pied, hein, puisque tout est piétonnier ici.
Ouais.
Et je peux vous assurer, l'expérience est complètement différente.
Et
mais maintenant, pour les visiteurs qui viennent en voiture, donc déjà, on leur conseille de venir à plusieurs,
oui,
ou de covoiturer, puisqu'il y a des solutions aujourd'hui
bien
qui
sûr
existent, hein, pour optimiser ses déplacements et réduire son bilan carbone. Et effectivement, ça fait partie de notre histoire. Et on ne peut pas le nier. C'est-à-dire que c'est aussi de ça que Rouen a tiré sa richesse et continue de tirer sa richesse avec des industries de pointe. Donc comment on donne à voir, comment on donne à comprendre, comment on éduque le regard, déjà en racontant cette histoire, cette fabuleuse histoire de la révolution industrielle, hein, avec ce qu'elle a de prospère, mais aussi ce qu'elle a de plus sombre, hein, le travail, oui, des enfants, comment justement cette histoire du progrès social se matérialise dans les sites que l'on a encore à faire découvrir. Je pense à la Corderie Valois où vous arrivez et toutes les machines sont en éveil, la roue tourne grâce à la force hydraulique, et puis toutes les bobines la construisent, enfin se mettent en marche. C'est absolument fabuleux. Et dans l'environnement, on se rend compte aussi de la pénibilité du travail, du bruit, de l'odeur. Non, mais évidemment. Et puis on peut s'imaginer aussi, quand on va à la Fabrique des Savoirs à Elbeuf, toujours sur l'aventure industrielle, les grosses machines, et de se représenter les enfants qui devaient enlever les petits fils qui dépassaient au moment de la production drapière. Enfin, c'est assez...
Ça, on rappelle, on est carrefour donc du 19e siècle, du 19e siècle, et c'est à l'époque où effectivement on commençait à travailler autour de 6-7 ans. De toute façon, on n'avait pas une espérance de vie qui dépassait en plus les 36 ans quand on était ouvrier. Pour replacer dans le contexte, c'est ça.
Ça permet vraiment de se le figurer, parce,
voilà,
qu'aujourd'hui, nous, on a complètement oublié ça. Enfin,
oui,
ça n'existe plus. En tout cas, en France, en Europe, ça n'existe plus. En revanche, dès que vous ouvrez un peu le... Vous ouvrez sur le monde, malheureusement, ça existe encore dans trop de pays. Mais comment on raconte cette histoire, comment on découvre ces sites aussi qui ont quelque chose de fabuleux, la force de la machine, hein,
oui,
et puis de manière plus contemporaine. Quand on tire le fil, hein, toujours de cette aventure textile, on a le port qui est au centre de la ville. Le port avec ses silos à grains qui sont presque des cathédrales modernes. Hein. Et je rappelle que Rouen est le premier port d'exportation de céréales. Donc c'est aussi un des marqueurs du territoire. Et par ailleurs, dans l'industrie, on a aussi des industries de pointe, d'excellence. Sur le territoire, on a par exemple Renault Cléon. On a Christophe. avec l'orfèvrerie connue dans le monde entier, fournisseur officiel de l'Élysée. Enfin,
c'est ça. Donc c'est... Et si on va plus loin, on a le Havre. Qui...
Exactement, dans la continuité. Donc ça je veux dire, ça mérite le détour.
Mais ça me fait penser, alors, la phrase exacte, je ne l'ai plus, c'était Flaubert qui commentait en fait de son vivant à l'époque où il y avait toutes les usines du métier à tisser le long du Robec et qui disait qu'en gros... c'était insupportable, invivable, plan, tout ce que vous voulez, mais en même temps, c'est un peu une remarque presque schizophrène, puisque c'était le cœur de ce qui faisait un peu, de ce qui faisait vraiment la ville.
Et oui, c'est tout le paradoxe.
C'est vraiment, mais Rouen, c'est, j'ai envie de dire, c'est ce que vous dites, c'est ce paradoxe-là auquel il faut donner du lien, et je trouve que ça fonctionne assez, puisque ça m'offre une transition. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont déplacés à Armand, on l'a vu, hein. L'été dernier, je crois qu'il y a eu, sur toute la saison, 1,5 million de touristes qui se sont déplacés à Armand et dans la métropole.
Sur toute l'année, cette année, on en est à 4,2 millions de touristes sur le territoire, oui.
Donc c'est les records de même de l'Armada 2019 en fait sont tombés.
Alors, quasiment.
Parlons Armada, donc. Rouen Tourisme est partenaire institutionnel. Hein. Votre participation à l'Armada, elle consiste en quoi en fait concrètement comment on pourrait la décrire pour quelqu'un qui ne...
Alors Rouen Tourisme est évidemment partenaire de l'Armada. Oui. Hein. On est partie prenante dans le conseil d'administration de l'association. Oui. Donc ça c'est une chose importante. Et puis par rapport à Rouen Tourisme, nous on a des missions. Nos missions principales portent un sur l'accueil des visiteurs du monde entier, accueil et information du monde entier. Oui. La promotion du territoire à l'international auprès des touristes. La mise en synergie des acteurs du territoire et enfin la commercialisation de prestations. Et par rapport à l'Armada, on est vraiment au cœur de toutes ces missions. C'est-à-dire que l'Armada, c'est un événement qui draine énormément de visiteurs hein, à l'instant T, plus de millions sur 10 jours entre le rassemblement à Rouen et puis la grande parade. Donc énormément de visiteurs qu'il faut accueillir. C'est-à-dire que l'association les accueille sur site avec les bénévoles, mais Rouen Tourisme prend le relais dès lors que nous ne sommes plus sur le site de l'Armada. Donc des touristes à accueillir qui sont là présents en grande quantité, mais qu'il faut continuer à accueillir de manière qualitative. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la promotion de la destination. Évidemment, quand on a un tel événement, on s'en saisit et on a envie de faire parler de Rouen à l'international. Faire en sorte qu'on ait des touristes internationaux, européens et nationaux, évidemment, qui fréquentent la manifestation.
Voilà, qui sont principalement... quoi. Américains, anglais, belges, quels sont un peu les touristes, les nationalités qui reviennent le plus régulièrement
sur ce type d'événement-là, on a beaucoup de pays du Nord limitrophes et de Britanniques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un événement qui attire un visitorat normand. Des régions limitrophes et on a envie que la part des touristes internationaux soit plus importante. Et donc l'effort que fait Rouen Tourisme, l'association, c'est vraiment de porter cet événement à l'international. Et à travers la presse notamment, avec un partenariat très fort avec l'association Armada, où nous mutualisons nos moyens pour aller chercher la presse internationale et accueillir toujours plus de visiteurs. Après, on a dans nos missions, hein, nous avons aussi le fait de mettre en synergie les acteurs du territoire. Aujourd'hui, Rouen Tourisme, c'est plus de 400 adhérents, entre 400 et 500 en fonction des années.
D'accord.
Donc, ce sont des professionnels du tourisme, du secteur des loisirs, qui s'engagent auprès de nous et qui portent aussi les valeurs de la destination et portent évidemment cet événement, puisqu'ils vont eux aussi accueillir les touristes qui viennent spécifiquement pour cela. Et enfin, le rôle de commercialisation aussi de prestations. Et en ce moment, c'est ce qui nous occupe le plus par rapport à l'Armada. Nous commercialisons les descentes et les remontées de Seine en voilier. Donc, quand les bateaux arrivent et quand ils repartent, mais également tous les trajets en vedette sur la Seine pendant l'événement. C'est-à-dire que vous pouvez vivre l'Armada en étant au cœur de celle-ci et en naviguant sur la Seine au milieu des plus grands voiliers du monde.
Ce qui permet aussi de la rendre accessible à un plus grand nombre, au cas où si notamment des personnes, notamment en situation de handicap, ne pourront pas monter sur la plupart des voiliers.
Oui, puis cheminer sur les quais, c'est assez long. Donc ça permet aussi d'avoir une expérience de navigation et de vraiment de voir l'ensemble des voiliers sans avoir à marcher des kilomètres.
C'est ça, parce qu'il faut le dire, c'est vrai que c'est difficile à se représenter comme ça quand on n'y est jamais allé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, c'est long et c'est parfois très fatigant qu'on soit en situation de handicap ou pas.
Bah, c'est des kilomètres et des kilomètres.
Ouais.
Et puis on s'arrête, on contemple les voiliers. Donc ça, c'est du temps.
L'organisation de l'Armada a déclaré, notamment dans sa grande conférence de presse du 7 décembre dernier, que le plus grand engagement, naturellement, de cet événement-là, encore plus que les autres années, c'était l'écologie. En quoi Rouen Tourisme peut-il ou doit-il s'associer à cet intérêt public qui est l'écologie, notamment dans les prestations qu'elle peut proposer? C'est un peu ce que vous aviez commencé à dire en fait tout à l'heure, peut-être développer un tout petit peu plus cette histoire de slow tourisme. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi de
la dimension de durabilité, c'est-à-dire que aujourd'hui chaque prestataire doit signer une charte avec l'association Armada, s'engageant à réduire au minimum les déchets et puis à les recycler. Donc quand nous, on commercialise une prestation qui a été négociée en amont avec l'association Armada, on a cette garantie-là. Et c'est vrai que c'est important pour nos visiteurs et pour nous de proposer ce type de prestations qui sont respectueuses de l'environnement et durables, dans la mesure où c'est un événement qui attire énormément de visiteurs et ce qui engendre forcément de la consommation. On évite les emballages qui ne sont pas indispensables. On va favoriser des couverts qui se recyclent et on va minimiser l'apport en plastique. Et c'est vrai que nous, dans ce que l'on va proposer au sein de l'Office du Tourisme, on fait attention à ce que les produits que l'on commercialise soient les plus locaux possibles et soient les plus durables possibles. Et ça rejoint aussi les valeurs du label Ville créative en matière de gastronomie de l'UNESCO, où la dimension de durabilité et de circuit court est fortement mise en avant.
Côté, toujours entre le lien avec l'Armada, puisque c'est un peu un fil conducteur que j'ai depuis plusieurs épisodes, forcément, c'est ce qu'on a dit, donc grand événement où il y a beaucoup de monde. Peut-être quand on est une personne en situation de handicap, notamment encore en plus si on est en fauteuil roulant, bah on se dit des bateaux en général du fin 19e, début 20e quand on parle de voilier, c'est pas très engageant à venir en fait quand on de prime abord comme ça. Et quel est le message qu'on pourrait dire pour leur donner envie de venir également, puisqu'on rappelle qu'il y a 2,5 millions de personnes qui sont dans cette situation, et on ne parle pas forcément de gens qui sont en fauteuil roulant spécifiquement, mais des personnes pour qui il est difficile de se déplacer dans des paramètres de cette sorte-là.
Oui, puis alors, il y a une notion d'accessibilité universelle aussi. Qu'est-ce qu'il faut dire? La manifestation est accessible. Pour une personne qui sera en fauteuil roulant, déjà en termes de contrôle d'accès, aujourd'hui il y a un contrôle d'accès avec un vigipirate aux entrées, et vous avez des entrées pour qui les personnes qui sont en situation de handicap vont passer en priorité.
Oui.
Donc déjà la notion de file d'attente, d'attendre, n'est plus dans le parcours du visiteur. Ensuite, effectivement, si l'ambition est de parcourir l'ensemble des quais, ça peut être long. Mais néanmoins, les quais restent accessibles. Et après, comme je le disais, on propose des expériences alternatives de navigation sur la Seine qui vont être peut-être plus reposantes et permettre d'appréhender l'ensemble des voiliers. Et par ailleurs, il y a le département qui propose des opérations aussi de navigation sur la Seine spécifiquement pour les personnes en fauteuil.
Donc on va rappeler, alors je crois que alors les chiffres exacts, je les ai plus en tête, hein, pardonnez-moi, mais c'était une responsable de, du département qui me les avait donnés. Je crois que ce sera une navette spécifique, si je ne dis pas de bêtises, pour personnes spécifiquement en fauteuil roulant. Et il y en aura 3 ou 4 par jour. Je crois que ça peut transporter jusqu'à 25 personnes dans cette situation à raison d'une navette. Donc 3, ça fait une centaine par jour. Donc, et je crois, vous me dites si j'ai bon, que c'est également, mais ça c'est plus large, c'est un bateau qui serait plus gros, pourrait transporter donc des personnes profils plus variés qui vont avec des personnes en situation en fait de surdité partielle ou totale et aussi des allocataires du RSA notamment. Si j'ai bien compris, il me semble que c'est ça. Vous confirmez?
Alors pour l'instant, moi je n'ai pas eu l'information dans le détail, oui. Mais je sais que le département y travaille.
Qu'est-ce que finalement, et même en général, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour rendre encore les choses plus accessibles? Parce que je ne vais pas vous surprendre en disant ça. C'est-à-dire que oui, des efforts sont faits. Évidemment que des efforts sont faits et il faut les saluer. On notera d'ailleurs, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est dans la même logique que le musée des Beaux-Arts et on va saluer cet effort. Alors, j'aimerais bien d'ailleurs les essayer. Peut-être que quand je suis ici, il y aura peut-être des occasions. Ils ont installé, je crois, un dispositif où avec, il y a des endroits où on peut se reposer qui sont mobiles.
Oui. Si je me trompe pas, ce sont des flâneuses.
C'est ça, je cherchais le terme.
Qui, pour en avoir discuté avec d'autres responsables de médiation dans d'autres musées français, ouais. Ont vraiment, m'avaient parlé de ce dispositif il y a un moment, en me disant vraiment c'est très opérant. Regardez de ce côté, et puis entre temps, la réunion des musées métropolitains a déclenché l'achat de ces flâneuses, ouais. Pour justement pouvoir. Appréhender le musée de manière plus confortable.
De manière plus confortable. Et donc, dans le prolongement de ma question, et dans l'idée de ce genre d'investissement, c'est qu'est-ce que finalement on pourrait faire de mieux? Parce que, honnêtement, bien sûr, hein, mais moi, mon point de vue, il serait plutôt plus subjectif que purement journalistique. Clairement, on n'est qu'au début de quelque chose et il y a énormément à faire. C'est que...
Après, dans ce genre de projet, il faut vraiment arriver à concevoir les choses en amont et en faire des préalables. Alors pour l'Armada, effectivement, il y a des paramètres qui sont là, les quais, leur longueur, des bateaux qui ne sont pas forcément accessibles, hein, puisque plus anciens. Oui. Donc ça, c'est en quelque sorte des impondérables. Mais vous, là, on parlait à l'instant des flâneuses. Est-ce que c'est pas une idée qui pourrait être déployée sur site? Alors après, je me rends pas compte des coûts associés, hein, mais comment en amont on réfléchit en se disant comment on rend l'expérience plus facile? Et à quelles conditions? Et il faut que ce soit aussi, il ne faut pas que ce soit des fausses bonnes idées.
Oui, ce qui est souvent le cas en la matière. Ma référence, c'était Nicolas Maillet-Rossignol, le maire de Rouen, qui me le disait, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut mieux, au lieu de faire des grandes lois, des grands projets, et non pas appliquer avec ce que vous dites en gros, des fausses bonnes idées ou des idées que tout le monde entend, mais qui sont financièrement impossibles à budgéter, quand on connaît un peu comment fonctionne le public et le service public, ou est-ce qu'il faudrait pas voir les choses peut-être en plus petit, mais donner des perspectives qui sont plus réalisables?
Oui, mais complètement. Et en ce sens, le travail avec les associations est intéressant parce que on peut se dire aussi qu'en amont, on co-construit une proposition pour qu'elle soit viable et financièrement et d'un point de vue pratique et que cela serve in fine.
Ouais. gratuité totale n'existe pas en économie. C'est-à-dire,
il y a forcément quelqu'un qui paie à la fin.
C'est très très important.
Les impôts, les contribuables.
C'est très très important de le dire. Pourquoi je me permets de dire quelque chose d'aussi finalement un peu bateau? Parce qu'en fait, je reçois souvent des questions. Bah oui, mais faudrait faire ceci, faudrait faire cela. En fait, faudrait tout faire, tout et rapidement. Mais la gratuité en économie n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin.
Et puis vous avez aussi le temps de l'action publique, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus dépenser les deniers de l'État sans prendre quelques garanties.
C'est ça.
Et on est sur un temps qui est plus long.
Il reste 5 petites minutes. Je tenais aussi à aborder le sujet. Et alors là, en fait, ma question est pour le coup très simple. Rouen, capitale de la gastronomie. En fait, moi, quand je parle de ça, c'est un peu comme Rouen 2028, quand je parle de ça autour de moi et que je dis que ce label a été décerné en fait à Rouen, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Qu'est-ce que ça représente?
Alors, le label Ville Créative en matière de gastronomie, décerné par l'UNESCO. Alors, il faut déjà savoir que Rouen est la seule ville en France à avoir obtenu ce label sur la gastronomie. C'est un réseau mondial de villes qui partagent des valeurs communes, qui candidatent auprès de l'UNESCO avec un dossier à remplir, des critères sur le fait que la modernité est influencée par la tradition, avec des revisites, des valeurs très fortes. Ici, les valeurs très fortes sur le territoire sont des valeurs de transmission. On a des équipements d'excellence, que ce soit l'INBP, l'IFA Marcel Sauvage, bientôt l'école Fauchon, donc de transmission, de bien manger, de circuits courts. Quand vous allez dans les cantines rouennaises, enfin, le travail réalisé est absolument remarquable. Vous avez un pourcentage de bio très important, des produits locaux pour nourrir les enfants qui fréquentent les cantines scolaires. Et c'est très tôt qu'on éduque le goût, la diversité et qu'on sensibilise les enfants au bien manger. Donc du savoir-faire, de la transmission, du circuit court, et puis aussi une tradition, un historique avec des spécialités ancestrales. Je pense au sucre de pomme qui est fabriqué à quelques kilomètres d'ici par un ESAT, le Pré la Bataille, et des personnes en situation de handicap qui fabriquent cette recette. Je pense aussi au canard à la rouennaise, où on est plus dans la tradition, le folklore, et on est aussi, on a une ville, une métropole avec des chefs absolument incroyables qui subliment les produits locaux. Et on est à côté de la région parisienne, et vraiment en termes de positionnement prix, pour nos touristes, on offre des tables qui sont absolument incroyables.
Ouais.
Et évidemment, on a aussi
nos étoilés. On ne va pas vous demander de choisir une table en particulier parce que je sais
c'est
que techniquement
difficile.
En matière de déontologie...
Non, c'est trop difficile. Après, à l'Office du Tourisme, on n'hésite pas à mettre en avant ces tables qui partagent ces valeurs de bien manger, de slow food, de circuit court, de responsabilité vis-à-vis de notre environnement. Et aujourd'hui, on fédère un club qui est le club des TOC, qui partage ces valeurs et qui sont toujours très partants pour nous suivre dans toutes les initiatives créatives qui sont proposées. Et c'est aussi un juste retour. Et c'est vrai que quand on s'y rend, on a la garantie de déguster des mets de qualité dans des endroits fort sympathiques.
Bien sûr. Dernière question, réponse très courte. C'est un peu la question, j'allais dire un peu taquinerie. Dernière question, réponse très courte avant de vous remercier, Delphine Creux. La statue de Napoléon, pour vous, personnellement, elle a sa place sur l'hôtel de ville ou dans un musée?
Elle vient d'être restaurée pour pouvoir être exposée en extérieur.
Oui.
Donc.
Mais vous, personnellement?
C'est une figure de l'histoire de France. Elle a été installée ici. Elle est superbement bien restaurée. Je crois qu'il faut la montrer et la partager.
Merci beaucoup
d'avoir
accepté mon invitation. Et
merci,
longue vie à Rouen. Venez visiter la Normandie.
Et longue vie à Brian.
Oh, merci beaucoup. Espérons.